Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Job chapitre 40. Job chapitre 40, les 28 versets. Job chapitre 40. Job chapitre 40. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue au monsieur. Et je voulais aussi vous dire que ceux qui n'ont pas assisté aux autres réunions, parce que nous, on est en train d'étudier le livre de Job à partir du chapitre 1 jusqu'à la fin. Là, on est rendu au chapitre 40, mais c'est parce que ça fait 40 semaines qu'on l'étudie, là. Les 39 autres semaines, tu n'étais pas là. Si tu veux les écouter, tu pourras les voir sur Internet. Juste une petite observation en passant. Je vous demanderais si vous avez des commentaires à faire, de les faire après le culte pour pas qu'on enregistre tout ça en même temps. OK, on va aller dans Job, chapitre 40. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Saint-terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? Orne-toi de magnificence et de grandeur, revêt-toi de splendeur et de gloire. Répands les flots de ta colère et d'un regard abaisse les hautains, d'un regard humilie les hautains, écrase sur place les méchants. Cache-les tous ensemble dans la poussière, enferme leur front dans les ténèbres, alors je rends hommage à la puissance de ta droite. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins, sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain, ses membres comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes où se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus, au milieu des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre, les saules du torrent l'environnent. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce à force ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce au moyen de filets qu'on lui percera le nez? Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te pressera-t-il de supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Les pêcheurs en trafiqueront-ils? Le partagent-ils entre les marchands? Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon? Dresse ta main contre lui et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Voici, on est trompé dans son attente, à son seul aspect, n'est-on pas terrassé. Alors, on va prier pour que l'Éternel bénisse notre étude. Notre Dieu, ton livre est rempli de merveilles, de leçons pour nous à apprendre et à mettre en application dans nos vies aussi. On te demande, Seigneur, que ton esprit nous éclaire, nous guide, nous instruise, nous ouvre l'intelligence à la compréhension de ton Écriture et surtout à sa mise en application dans nos vies, pour t'apporter honneur et gloire. On te demande ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, à remarquer, dans le texte, au verset 10, on identifie le béhémoth. Quand vous regardez dans plusieurs versions, dans la version Darby, dans la version King James, dans la version Osterval et aussi dans la version David Martin, on garde le mot original « béhémoth ». Alors ici, lui, il l'identifie comme étant l'hippopotame. Et quand vous regardez aussi le verset 20, on dit « Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? » Le mot qui est dans l'hébreu original, c'est le mot Léviathan. Alors, le mot Léviathan, selon ce que je vous ai mentionné tantôt, lorsque je vous ai montré l'animal, ça serait plus des dinosaures. Et lui, Ken Ham, qui est un scientifique chrétien, avance l'idée que les hommes et les dinosaures auraient coexisté à une certaine époque. Alors ça, c'est juste pour votre information, quand on étudiera le texte, de se souvenir que le mot hippopotame, c'est vraiment behemoth, puis le mot crocodile, c'est le mot hébreu Léviathan. Alors, aujourd'hui, on va regarder le chapitre 40, le titre que j'ai donné au sermon d'aujourd'hui, « Dieu poursuit l'humiliation de Job ». Pourquoi Job a-t-il besoin d'être humilié? D'abord, on va revenir un petit peu très rapidement sur l'ensemble des 39 chapitres qu'on a étudiés dans les semaines précédentes. Job, on sait, dans les Écritures, on dit pauvre comme Job. Job était un homme qui était extrêmement, profondément éprouvé par le Seigneur de plusieurs façons. Premièrement, le Seigneur a permis qu'il perde ses 10 enfants. Le Seigneur a permis qu'il perde toute sa fortune. C'était un homme considéré le plus riche, un des plus riches de l'Orient, perd sa fortune, perd sa santé. Il a été pris d'une maladie. On avait déjà regardé certaines diapositives sur ce que les scientifiques d'aujourd'hui croient que ça pouvait être comme maladie. Et il avait perdu aussi l'estime de tout le monde. Il était un homme estimé, considéré, un des plus considérés de l'Orient, comme on dit. Donc, c'était un personnage important. Et il avait tout perdu, même l'estime de sa famille, de ses parents, de ses amis, de ses proches. Alors, il n'avait pas été éprouvé de façon ordinaire. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a trois de ses amis qui sont venus le voir. Leur but était de le consoler. Et ils étaient de bien piètres consolateurs parce qu'ils ont dit, « Ça se peut pas que tu aies connu tous ces malheurs-là, toutes ces choses-là, si tu n'as pas été un pécheur. » Alors, l'ensemble des trois individus qui se disaient ses amis étaient des personnes qui ont vraiment manqué de tact et ont mal interprété aussi ce que Dieu disait. Alors, c'est important de se souvenir que ces trois amis-là ont été mauvais consolateurs. Et il est venu un quatrième, celui qu'on a appelé Élihu. Élihu est arrivé, lui, puis a amené d'autres arguments. Mais dans le fond, ça tournait toujours autour de la même idée. Si tu es dans l'épreuve, c'est parce que Dieu te punit pour le péché. Et on sait que Job était un homme juste, intègre et droit. Donc, sa vie témoignait de sa véritable foi au Seigneur Jésus-Christ, à Dieu. Et bien sûr que ça pose un problème dans la tête d'une personne qui est croyante et qui y arrive autant de malheurs dans sa vie. Alors la question qui peut se poser, veux-tu bien m'expliquer comment ça se fait que moi je mène une vie droite, intègre, honnête, essayant d'obéir le plus que je peux à ta parole et que tu permets des choses pareilles dans ma vie? C'était des questions bien légitimes. Mais ce qui arrive, c'est que Job a dérapé un peu. Il a dérapé dans le sens qu'il a accusé Dieu d'être un mauvais directeur de sa vie et il a accusé Dieu de différentes choses. Le titre que je donne « Poursuit l'humiliation », c'est parce que dans la leçon 39, Dieu, pour répondre aux questions de Job, lui avait pas répondu en lui donnant des explications pourquoi il dirigeait sa vie de cette façon-là. Plutôt, il lui a posé des questions. Étais-tu là quand j'ai créé l'univers? Est-ce que tu comprends comment ça marche, tout l'univers? Est-ce que tu comprends comment ça marche, la terre, la mer, les oiseaux? Et là, il lui pose toute une série de questions. À la fin, la réponse de Job, c'était « Je suis peu de choses ». Après s'être fait poser toute cette série de questions-là, ça l'avait profondément humilié. Après ça, il avait dit « Je mets ma main sur ma bouche ». Autrement dit, les questions de Dieu l'avaient amené au silence. Ensuite, il lui avait dit « Je ne répondrai plus et je n'ajouterai rien ». Ça, c'est la fin du chapitre 39. Autrement dit, les questions que Dieu lui a posées étaient tellement profondes, tellement vastes, qu'il s'est rendu compte que c'était vraiment pas de son ressort. Alors il dit, « Je suis trop peu de choses. » Après ça, il dit, « Je mets ma main sur ma bouche. » Après ça, il dit, « Je ne répondrai plus, je n'ajouterai rien. » On pourrait dire, Dieu aurait pu dire, « Bon, c'est suffisant. On va le ramener dans son état de richesse première, il va être bien content. » Dieu poursuit son humiliation. C'est pour ça que je vous dis que je lui ai donné le titre « Dieu poursuit l'humiliation de Job ». Quel était le principal péché de Job? Celui d'appeler Dieu à la barre. C'est comme si toi, tu étais le juge et tu appelles Dieu, puis tu lui dis « Là, tu vas répondre à mes questions, ou bien non, ça ira pas bien ». N'est-ce pas que quand ça va pas bien dans nos vies, que Dieu permet des choses souffrantes dans nos vies et qu'on mène une vie droite et intègre le plus qu'on peut, le plus qu'on peut suivre la Bible, et que Dieu permet des choses comme ça, qu'on peut nous aussi être tentés de faire la même chose? Veux-tu bien me dire pourquoi tu m'envoies ça? J'ai-tu besoin d'être ça, moi-là? Là? C'est le genre de question qu'on est capable de se poser. Et quand on fait ça, qu'est-ce qu'on est en train de faire, en fait? On est en train de obscurcir les conseils de Dieu. Dieu va lui dire, à la fin, il va lui dire, Job va se repentir dans le chapitre 42, il va dire qu'il a obscurci les desseins de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire pour ça? Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe sur la terre, y compris dans nos vies personnelles. Il le fait à la perfection. Et quand on met ça en question, on est en train de dire à Dieu, ben, si ce serait moi qui mènerais, là, ça serait mené d'une autre façon. On est en train de quasiment de s'élever au-dessus de Dieu et de dire qu'on soit capable de faire mieux que lui. C'est un petit peu ça que Job a fait, et c'est un petit peu pour la raison pour laquelle Dieu veut lui donner une humiliation encore plus profonde. Job, dans le chapitre 42, verset 6, c'est important. On va un petit peu plus loin, on est rendu dans le chapitre 42. Mais c'est juste pour dire que à la suite des questionnements de Dieu, Job en est arrivé à un état d'esprit dans lequel Dieu voulait l'amener. Il lui dit, et Job, si c'est Job qui parle, après que tout Dieu ait fini de poser ses questions, il dit, « C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Autrement dit, il est en train d'avouer qu'il s'occupait, il est tenté de s'occuper de choses beaucoup trop élevées et beaucoup trop profondes pour lui. Et là, il se repent et il se condamne lui-même. J'ai trouvé dans un des commentaires que j'utilise pour faire le texte d'aujourd'hui, une phrase que je trouve très intelligente que le commentateur amène. Il dit, « Le péché de Job n'était pas de type horizontal. » Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Un péché de type horizontal, c'est quand j'ai des manquements envers les hommes ou les femmes, qu'ils soient chrétiens ou non. Ça, c'est un péché horizontal. Un péché vertical, c'est un péché que tu fais à la face de Dieu lui-même. Alors, il dit, le péché de Job n'avait pas été de type horizontal, c'est-à-dire produit par la rupture de l'ordre moral ou la violation d'un code d'éthique vis-à-vis des hommes. Ça, c'est horizontal. Mais c'était un péché de type vertical qui se manifeste au moment où la créature passe son créateur en jugement. Je pense qu'on le voit, la gravité du péché. Là. Le créateur qui est infiniment plus intelligent que toi, infiniment plus savant que toi, infiniment plus tout, là, sagesse, bonté, amour, miséricorde, etc., plus que toi, là, mais pas juste un peu plus, infiniment plus. Et toi, qui es une créature corrompue par le péché, tu vas oser demander à Dieu de te rendre des comptes. C'est un peu ça l'histoire de Job. Alors, Job n'était pas encore arrivé là à vouloir passer son créateur en jugement, mais il était sur le bord. Pourquoi Dieu intervient à ce moment-là? Parce qu'il était en danger de franchir cette limite. Et le Seigneur l'arrête sur la pente fatale et l'oblige à se ressaisir. Et le moyen qu'il utilise, c'est les questions. Job avait déjà reconnu que pour être justifié, il n'y a pas besoin d'accuser Dieu, mais au contraire, il se doit de se soumettre humblement à Dieu. Et la leçon pour nous, aujourd'hui, quand on lit Job, c'est de regarder, est-ce que nous aussi, Dieu nous en envoie des épreuves? Il nous en envoie plein. Si vous n'avez pas eu dans votre vie, vous êtes chanceux, viendrez me raconter vos vies. Mais je suis sûr que vous en avez eu. Tout le monde en a. Et il faut accepter ce que Dieu nous envoie comme venant de sa main et comme étant rempli d'amour, de miséricorde et de sagesse. Et ça, on a de la difficulté à faire ça. On a beaucoup de difficultés à faire ça. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est la manière que Dieu utilise pour corriger et humilier son serviteur. Il va user de ménagement. Avez-vous remarqué que Dieu n'a pas utilisé un langage pour comme... C'est des questions, donc il l'amène à réfléchir. Alors, les trois premiers amis de Job, eux, avaient accablé Job de reproches. Élihu avait fait la même chose. Même lui avait ajouté un petit peu de condescendance, hautaine et même déplacée. Alors ici, le Seigneur l'instruit patiemment et il va se révéler à lui en lui révélant plusieurs choses qui le concernent. Sa puissance, parce qu'on avait vu que dans les questions qu'il avait posées, il avait parlé des phénomènes météorologiques. Est-ce que tu contrôles la grêle? Est-ce que tu contrôles la pluie? Est-ce que tu contrôles le vent? Et il avait posé toute une série de questions comme ça qui avait amené Job à dire, « Oh, pas moi qui fais ça. » Alors, il avait utilisé sa puissance, sa sagesse et sa sollicitude pour montrer que même les petits animaux, comme les oiseaux, Dieu, comme dans le Nouveau Testament, le Seigneur dit qu'il prend soin. Il dit, « Si Dieu prend soin des moineaux, ne prendra-t-il pas plus soin de vous? » En voulant dire, si Dieu s'occupe des oiseaux, il ne s'occupera pas de vous. Alors, il avait voulu amener Job à une dépendance et à une foi totale et sans réserve. Ça aussi, on a de la misère à ça. Alors, Dieu ne pouvait pas l'amener à approuver son comportement tant qu'il y avait un contentieux. Un contentieux, quand on parle d'un contentieux, c'est l'aspect qu'on est en chamaille un petit peu avec Dieu. On le questionne, on n'est pas content de notre sort. Tant que ça, c'était pas complètement réglé, Dieu n'a pas redonné à Job les bénédictions qu'il avait auparavant. C'est ce qu'on va voir quand on va arriver au chapitre 42. Quand Job va avoir dit « C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre », là, on va voir Dieu, la main de Dieu va revenir. Il va lui redonner toute une série de bénédictions qu'il avait perdues. Et même, il va en avoir plus qu'il en avait eu au début. Il va en avoir le double. Et il va vivre rassasié de jours, rassasié de respect, rassasié de tout ce que vous voulez. Alors, si on regarde dans nos chapitres passés, on ne les reprendra pas tout au complet, parce que ça sera très long, mais on pourrait aller regarder au moins des extraits de certains chapitres où Job avait péché contre Dieu et les mots qu'il avait utilisés. Alors, son attitude, si on dit que son péché est vertical, c'est qu'il avait accusé Dieu de certaines choses. Si on va, par exemple, dans le chapitre 9, verset 17, ne demande pas de tourner, juste de suivre, il avait accusé Dieu de l'avoir blessé sans raison. Il avait dit, « Lui qui m'assaille comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures. » Autrement dit, il est en train de dire à Dieu, « Tu me blesses, puis tu n'as pas de raison de le faire. » Oh, quelle accusation de la part d'un pécheur. Autre attitude qu'il avait dans le chapitre 19, il lui avait dit qu'il avait subi un tort de la part de Dieu. Ça aussi, c'est une grosse accusation. Il dit, « Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. » Troisième péché d'attitude, de péché vertical, il avait accusé Dieu de l'avoir traité comme un ennemi. Imaginez-vous, vous êtes un enfant de Dieu, puis vous dites à Dieu, « Tu m'as traité comme un ennemi. » Dans le chapitre 13, verset 24, il dit, « Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? » Parle à Dieu. « Pourquoi me caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? » Dans le chapitre 10, verset 2, il avait accusé Dieu avec véhémence. Véhémence, ça veut dire que tu insistes beaucoup, là. Quand on dit qu'il est allé à la limite de tomber dans le blasphème, c'est qu'il était, là. Il utilisait du langage avec Dieu qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu d'utiliser. Il avait dit, « Je dis à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. » Ça, c'est appelé Dieu à la barre. C'est lui qui est le juge, c'est Dieu, il faut qu'il réponde. Dieu dit, « Je ne rends de compte à personne. » Parce que tu es trop petit pour que je puisse t'expliquer des trop grandes choses. C'est ça l'idée un petit peu du chapitre 39 et 40. Alors, ces accusations-là et d'autres du même genre, je ne les ai pas toutes sorties, là, mais sorties quelques-unes, sembleraient impliquer que Job prétendait qu'il gouvernerait le monde mieux que Dieu. Quelle prétention! Et qu'il était plus juste que Dieu lui-même. Aussi, le Seigneur juge-t-il qu'il était nécessaire de poursuivre le questionnement de Job pour l'amener à constater davantage son ignorance, sa rébellion, son manque de confiance en lui, l'inutilité de son attitude, l'écart infini entre Dieu et lui. Plus Dieu va te montrer l'écart qu'il y a entre lui et toi, plus tu vas reprendre ta place. Comme on dit en québécois, tu vas prendre ton trou. Et il va lui montrer son incompétence, sa faiblesse et la gravité de son péché. Quand il va avoir fini ça, là, Job, il va comprendre, « Oh, je suis allé trop loin, j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire, je me suis occupé de choses trop profondes pour moi. » Alors, ce qu'on va regarder, dans le texte se divise en trois parties. Dieu humilie Job, le présomptueux. Versets 1 à 9. Après ça, on va regarder, dans la deuxième partie, Job, l'orgueilleux, où il va le prendre et il va lui parler du Béhémoth. Et après ça, à partir du verset 20, il va lui parler du Léviathan. Qu'est-ce qu'il va faire dans les versets 1 et 2? Il va le mettre au défi. Quand vous mettez quelqu'un au défi, hein, je te défie de faire telle affaire. Alors, Dieu met Job au défi. Il lui dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est quand Dieu parle à Job, c'est au milieu d'une tempête. Pourquoi Dieu veut-il répondre à Job dans une chose qui peut l'effrayer? Justement, pour de la solennité, il veut que Job comprenne la gravité. Alors, il lui parle au milieu d'une tempête. Ça devait être impressionnant. Je sais pas, quand on tombe dans une vraie tempête, là, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais à peu près 8-9 ans, il y avait eu une grosse tempête de grêle à lac Mégantic. Énorme! J'avais eu tellement peur. On était tous les enfants, on était partis, puis on était dans le lit, ma mère était là, on s'était tous mis dans le lit, puis on tremblait presque tellement, on avait peur. Là, ça tombait comme des grosses balles de golf, là, c'était effrayant. Alors, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Quand on sait que Dieu est omniscient, donc il sait tout, tout ce qui est possible de savoir, il le sait, et il demande à une créature, « Je vais t'interroger, tu m'instruiras. » Il y avait un petit peu d'ironie là-dedans, un petit peu beaucoup, disons. Alors, le Seigneur utilise deux moyens pour parler à son serviteur, la solennité du milieu de la tempête, lui parler du milieu d'une tempête, et aussi, il fait un appel à son courage par les mots « Saint-Terrain comme un vaillant homme ». Ça, c'est une expression de guerre. Quand tu « Saint-Terrain comme un vaillant homme », ça veut dire « Attelle-toi là pour me répondre ». Et après ça, il dit « Je t'interrogerai, tu m'instruiras ». Alors, il utilise trois choses, la solennité, l'appel au courage et l'ironie. On constate que le ton solennel, dans le fait que l'Éternel parle à Job du milieu de la tempête, on sait qu'une tempête, ça impressionne et ça effraie. Cette circonstance n'est certainement pas l'effet du hasard, mais a pour objet de créer une atmosphère propice à la réprimande. Quand Dieu parle au milieu d'une tempête, c'est sûr que c'est une circonstance qui créait une bonne attitude dans l'esprit de Job. L'expression « s'interrompt comme un vaillant homme » veut rappeler à Job qu'il avait professé être prêt à rencontrer Dieu pour une entrevue. Si on regarderait dans les chapitres précédents, Job avait dit ça. « Oh, je veux le rencontrer, je veux parler avec lui. » Là, il a la chance de parler avec lui. Il se met la main sur la bouche. C'est ça qu'il dit « s'interrompt », en voulant dire « regarde, t'as une chance de te présenter devant moi, je te l'offre, qu'est-ce que t'attends ?» Alors, au chapitre 13 et au verset 18, il avait déclaré, Job, avec assurance, « Me voici prêt à plaider ma cause, je sais que j'ai raison. » Il n'y a pas que le dos de la cuillère, comme on dit. Maintenant qu'il a l'opportunité de parler, il décide volontairement de garder le silence. Dieu le met au défi de rassembler son courage. S'interrompt comme un vaillant homme. Bien sûr, Dieu est omniscient et utilise ici une douce ironie. Quand Dieu, l'omniscient, dit à la petite créature pécheresse, impotente, ignorante, je vais te poser des questions, tu m'instruiras. C'est une façon de Dieu de dire à son serviteur, « OK, on va te poser quelques questions, on va voir si tu es à la hauteur. » Alors, il veut, le Seigneur veut lui montrer la grandeur infinie, sa grandeur infinie et insondable. Et, d'autre part, il veut montrer à Job plusieurs choses. Son insignifiance, il est petit, un pou, pour écraser avec ton pied. Son ignorance, parce que toutes les questions qu'il lui a posées, Job n'a pas été capable de répondre à une seule. Sa misère et son indigence. Son choix est simple. Qu'est-ce qui reste à Job à faire? Se taire et se soumettre. Donc, la première chose, Dieu humilie le présomptueux en le mettant au défi. Deuxième chose, en le mettant à l'interrogatoire, versets 3 à 8. Et là, la question, le verset 3 est vraiment ce qu'on pourrait appeler la question fondamentale. Anéantiras-tu ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? Il en pose une solide, là. C'est comme la massue. Alors, ici, on trouve la question fondamentale du livre tout entier. Selon le principe d'une rétribution automatique, tu sais ce que ça veut dire, une rétribution automatique? Tu pèches, donc t'es puni. De deux choses l'une. Ou bien Dieu est juste, alors Job est coupable. C'est la thèse des trois amis. Ils disent, si t'es dans cet état-là, c'est parce que t'es un grand pécheur. Et après ça, ou bien Job est juste, alors Dieu paraît agir d'une manière inique. Alors, le verset 3 comprend deux questions que nous reformulerons de la façon suivante. Anéantiras-tu ma justice? C'est comme s'il disait, maintiens-tu que mes actions à ton égard ne sont pas justes et équitables? Si cela était à ton pouvoir, oserais-tu les annuler? C'est comme s'il disait ça à Dieu, dans l'interprétation du anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Et l'autre phrase qu'on pourrait reformuler, c'est « Me condamneras-tu pour te donner droit? » C'est comme s'il lui disait « Penses-tu qu'il est nécessaire de m'accuser d'injustice, de me condamner pour pouvoir établir ta justice propre? » Est-ce que c'était nécessaire d'accuser Dieu pour dire qu'il avait mené une vie droite? Dieu, il n'avait pas permis que les choses arrivent parce qu'il menait une vie de péché, comme il nous a été annoncé dans les débuts du livre de Job. C'est à quoi la raison? Quand on s'en souvient, c'est parce que Satan s'était présenté devant Dieu et avait demandé à Dieu la permission de l'éprouver. Dieu lui avait dit oui. C'était pas parce qu'il menait, parce que de la bouche même de Dieu, Dieu avait dit qu'il menait une vie intègre et droite, qu'il était intègre et droit. Donc, dans ses relations qu'on pourrait dire horizontales, il était correct. Là, il se passait quelque chose à un autre niveau. Mais lui, il ne savait pas là, que ça se passait, cette affaire-là. Alors, il s'est mis à accuser Dieu. Mais je mène une vie droite, veux-tu bien me dire pourquoi tu m'as envoyé de la maladie? Je mène une vie droite, veux-tu bien me dire pourquoi tu permets que mes enfants sont morts? Je mène une vie droite, veux-tu bien me dire pourquoi, etc., etc. Alors, dans ce verset, dans ceux qui suivent, il y a un utile avertissement pour les gens qui désapprouvent la manière dont le Seigneur agit et qui voudraient prendre sa place en s'imaginant qu'il ferait mieux. Quelle prétention absurde! À partir du verset 4, aller jusqu'au verset 8, là, il va lui poser des questions qu'on pourrait dire déroutantes. Qu'est-ce que c'est une question déroutante? C'est une question que tu n'attends pas, puis qui te désarçonne, qui te jette en bas de ton raisonnement. Tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus quoi dire, quoi répondre. Et là, il lui pose une question dans le verset 4. « As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? » Autrement dit, tu es en train de lui dire, « Es-tu tout-puissant? » Le bras de Dieu, on ne parle pas d'un bras matériel, un peu comme quand on dit « La justice a le bras long. » Est-ce qu'on est en train de dire que la justice a un grand bras? Non, c'est une expression qui veut dire que quand tu fais quelque chose de mal qui va contre la loi, la justice a tous les moyens nécessaires, la police, toutes sortes d'affaires, pour aller te chercher et te punir pour ce que tu as fait. Quand il dit « As-tu un bras comme celui de Dieu? » Il est en train de dire « Est-ce que toi, tu es capable de contrôler ce qui se passe de mal sur la terre, d'emmener quelqu'un en jugement? Est-ce que tu es capable de faire ça par toi-même? » Puis quand il lui dit aussi « Une voix tonnante comme la sienne », il est en train de dire que la voix de l'Éternel est une voix extrêmement puissante et qui parce qu'on parle des fois, la voix de l'Éternel est comme les grandes eaux. Je me souviens quand on allait à l'île d'Orléans, quand on demeurait à l'île d'Orléans, on allait souvent passer aux chutes Montmorency, au printemps. Si vous allez là au mois de mai, vous allez savoir c'est quoi la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel est comme les eaux puissantes. Ça tombe, là, c'est assourdissant. Ça dit que la voix de Dieu est de cet ordre-là. Et après ça, dans le verset 5, il va lui poser quelque chose, une question encore plus déroutante. Il va lui dire, « Orne-toi de magnificence et de grandeur, revêt-toi de splendeur et de gloire. » Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? « Es-tu revêtu des vêtements royaux de la divinité? » Parce que c'est, quand on parle de magnificence, de grandeur, de splendeur et de gloire, il « revêt-toi », c'est un vêtement. Il dit, « Mets-toi... » Est-ce que tu as les vêtements royaux de la divinité, de la déité? Question, il déroute un petit peu. Hein? Après ça, il lui dit, versets 6 et 7, « Répands les flots de ta colère et d'un regard abaisse les hautains. » Puis dans le verset 7, il dit, « D'un regard humilie les hautains, écrase sur place les méchants. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le verset, il y a deux fois qu'il dit « d'un regard ». Quand l'Éternel, juste par un regard, est capable d'humilier quelqu'un, est capable d'écraser sur place le méchant, il est en train de dire à Job, est-ce que tu peux faire ça, toi, un méchant, juste le regarder, puis tu vas anéantir sa méchanceté? Bien sûr que Job a dit, oh. Après ça, dans le verset 8, il dit, après avoir parlé du regard dans deux versets, il dit, « Cache-les tous ensemble dans la poussière. Enferme leur front dans les ténèbres. » Qu'est-ce qu'il était en train de dire à Job? « As-tu le pouvoir de faire mourir à volonté individus et groupes? » Est-ce qu'on peut faire ça, nous autres? On voit quelqu'un de méchant, on dit, « Ben là, c'est pas d'intervenir. » Juste le pouvoir de tuer... C'est que Dieu n'intervient pas nécessairement avec une arme ou quoi que ce soit. Il peut faire mourir qui veut, quand il veut, comme il veut. Juste par sa pensée. Alors le Seigneur a ce pouvoir-là. Il l'a exercé à plusieurs endroits. Je vais vous en nommer quelques-uns. Il l'avait exercé envers Corée, Datam et Abiram. Il l'avait exercé envers les Égyptiens. Il l'avait exercé envers Sodome et Gomorre. Donc, quand on dit « As-tu le pouvoir de faire mourir à volonté individu et groupe? » Qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire? Il sous-entend « Mais moi, je suis capable. » Voyez-vous, dans Nombre 16, verset 30 à 33, on a l'histoire de Corée, Dathan et Abiram. Ça dit, « Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. » Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Vous voyez un jugement. Dieu y avait méprisé l'Éternel, le Seigneur prend que tous ces hommes-là descendent vivants. La terre se rouvre, ils descendent vivants dans le séjour des morts. On a l'exemple aussi de Sodome et Gomorre dans Genèse 19. Versets 24 et 25. « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. » Maintenant, un autre groupe, les Égyptiens. On sait que le Pharaon avait poursuivi le peuple hébreu qui voulait s'en aller. Et il était rendu au milieu de la mer. La mer s'était ouverte, mais lui, il avait décidé de s'avancer. Alors, ça dit dans le verset 27, dans Exode 14, « Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. » Et il n'en échappa un seul. Il n'en échappa pas un seul. Alors, quand il pose la question, est-ce que cache-les tous ensemble dans la poussière, enferme leur front dans les ténèbres, il est en train de, comme s'il posait la question, as-tu le pouvoir de faire mourir soit des individus ou soit des groupes d'individus, comme tu le veux, juste par ton esprit. C'est ça que l'Éternel a fait. Alors, il est en train de ramener son serviteur à l'humilité. Dans le verset 9, c'est comme il y a eu comme un petit combat, là. Verset 9, c'est « knock out ». Verset 9. Alors, le Seigneur dit, il dit, « Si tu es capable de faire tout ce que je viens de te nommer, moi, je vais te rendre un hommage. » Il y a quelque chose de vraiment drôle dans ça, dans ce verset-là. Il dit, « Alors je rends hommage à la puissance de ta droite. » Ça, c'est dans la version Louis II, 1910. Dans la version Darby, ça dit, « Alors, si tu fais tout ce que je viens de te dire, alors moi, je te célébrerai parce que ta droite te sauve. » Alors, les actions de rendre hommage et de célébrer parlent en général des louanges que les hommes adressent à Dieu. Il est en train de dire, si tu es capable de faire tout ce que je viens de te dire, je vais te célébrer. Moi, je vois le Seigneur a un sens de l'humour. Hein? On le voit dans les Écritures, il y a vraiment un sens de l'humour. Il dit à son serviteur, si tu fais tout ça, je vais te célébrer. Parce que tu vas mériter d'être célébré, parce que tu vas faire des choses qui appartiennent uniquement au monde divin. Puis tu es un humain. Alors, il est en train de le faire réfléchir un peu. Alors, c'est quand même ironique, mais c'est une ironie pleine de compassion. Quand Job aura compris sa petitesse et son incapacité à sonder tous les problèmes, il obtiendra le soulagement auprès lequel il soupire. Si l'homme était comme Dieu, il pourrait se sauver lui-même. Quand il parle de sauver, tu sauves ta droite. Mais très précisément, c'est là un résultat possible, impossible à atteindre. Job s'en rendait compte. Job avait déjà mentionné dans d'autres chapitres qu'il savait qu'il était sauvé par la grâce divine. Alors, il avait dit, dans le verset, chapitre 9, verset 15, « Quand j'aurai raison, je ne lui répondrai pas. Je demanderai grâce à mon juge. » Alors, Job connaissait aussi la venue future de Jésus-Christ parce qu'il croyait à la résurrection. Alors, déjà... Dans les versets 10 à 19, là, moi j'ai intitulé mon début de chapitre « Dieu humilie Job l'orgueilleux ». Et là, je vais utiliser la version Osterwald Parce que dans la version Osterwald, on a encore dans le verset 10 le mot béhémoth et non pas le mot hippopotame. Il dit, vois donc le béhémoth que j'ai fait aussi bien que toi. Il mange l'herbe comme le bœuf. Vois donc, sa force est dans ses flancs et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il remue sa queue semblable au cèdre. Les tendons de ses hanches sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme les barres de fer. C'est le chef-d'œuvre de Dieu. Son Créateur lui a donné son épée. Les montagnes portent pour lui leur herbe. Là se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus dans l'ombre des roseaux et dans le limon. Les lotus le couvrent de leur ombre et les saules du soir l'environnent. Vois, le fleuve déborde avec violence, il n'a point peur. Il serait tranquille quand le Jourdain monterait jusqu'à sa gueule, qu'on le prenne à porte ouverte ou qu'à l'aide de filets on lui perce la nez. Dieu veut une fois de plus utiliser une créature du règne animal pour enseigner des leçons à Job. Et là, il va utiliser ce gros animal, le behemoth. Alors, les versions King James, Darby, Osterwald ont conservé le mot de l'hébreu original sans interpréter l'identité de la bête. D'autres versions ont interprété la bête comme étant soit l'hippopotame ou l'éléphant, dans le cas de behemoth. Certaines versions ont dit éléphant, certaines versions ont dit hippopotame. Cependant, de très sérieux scientifiques chrétiens qui sont d'ardents défendeurs du créationnisme l'identifient à un dinosaure. La thèse qu'ils défendent est que l'homme et les dinosaures ont coexisté. Alors, j'ai marqué la conclusion, parce que quelqu'un qui arrive à la fin de son article sur la coexistence des hommes et des dinosaures, il arrive à une conclusion, et sa conclusion, c'est que ça pourrait, l'animal dont on parle, le gros animal dont on parle, ça correspondrait plus à l'ensemble de l'habitat de l'animal, si on l'étudierait en détail, à l'habitat et aussi à certaines caractéristiques physiques de l'animal. Et Ken Ham, c'est un scientifique, donc à quelque part, il sait que ces choses-là, il défend la thèse que les hommes ont déjà coexisté avec les dinosaures. J'ai quelques copies qui me restent. On a donné des copies aux personnes qui étaient à l'étude en bas. Alors si jamais vous la voulez, vous me le direz, je vous en donnerai une copie. Alors il a écrit un article qui s'appelle « Y a-t-il vraiment un mystère concernant les dinosaures? » Alors c'est le Dr. Ken Ham qui est directeur du ministère Answers in Genesis. Et là, je vous ai mis dans la leçon, si jamais vous voulez la télécharger, vous avez le lien où vous pouvez aller sur ce site-là. Et il y a une multitude de réponses aux questions qui correspondent à l'existence de ces animaux-là. Qu'est-ce que Dieu avait voulu montrer à Job en utilisant l'animal, le behemoth? Il avait voulu lui faire voir la relation du béhémoth avec les autres animaux. Parce que dans les chapitres 39, le Seigneur avait parlé qu'il avait le contrôle sur tous les animaux. Il était resté au niveau des animaux un peu domestiques et des petits. Là, c'est comme s'il dit, « Ouais, Mégane, je vais te montrer que j'ai le contrôle même sur les gros animaux. » Dans le verset 14, il avait parlé qu'il était le chef-d'œuvre de Dieu. Lui-même, Dieu, en parlant du béhémoth, il dit que c'est son chef-d'œuvre, dans le verset 14. Il lui dit aussi qu'il a une force formidable, versets 11 et 12. Il lui dit que c'est un herbivore. Imaginez-vous un animal de cette grosseur-là, s'il aurait fallu qu'il soit carnivore. Alors, il mangeait juste de l'herbe. C'était aussi un animal qui était à la fois aquatique et terrestre, parce qu'on parle qu'il allait se nourrir dans les montagnes, puis qu'après ça, on en parle comme s'il était dans des fleuves. Et il mentionne dans le verset 15 qu'il avait quand même une disposition pacifique malgré sa grosseur. Une chance, hein? Le Seigneur a bien fait les choses. À ceux qui sont bien forts, souvent, il va donner un caractère doux. Puis souvent, ceux qui sont tout petits sont comme tellement... Il ne faudrait pas que tu leur mettes de la force des gros bonhommes, parce que il serait très, très, très dangereux. Mais il faut se souvenir que c'est l'Éternel qui distribue toutes ces choses-là. La force, l'intelligence, la sagesse et toutes ces choses-là. Et dans le verset 18, il veut lui rappeler que cet animal-là était sans peur. Il n'avait pas peur de rien comprendre. Si vraiment c'est celui qu'on croit, là, on a vu tantôt sur l'image, c'est un animal, bien sûr, qui ne devait pas avoir peur d'un petit bonhomme, parce que il ne devait pas avoir peur de ça du tout. Il veut lui faire prendre conscience aussi que ce formidable animal-là est sa création. Il a dit, je l'ai créé comme toi. Après ça, il veut lui faire comprendre que dans les Écritures, dans le livre de la Genèse, on se souvient que Dieu avait dit aux animaux qu'ils devraient être subordonnés à l'homme. Donc, il aurait le contrôle sur les animaux. Est-ce que c'était encore vrai à cette époque-là, après la chute? Moins. Alors, un animal qui aurait dû être subordonné ne l'était plus. Et dans le verset 19, il lui avait parlé que cet animal-là était indomptable. Autrement dit, Dieu lui avait dit, essaye donc de le dompter, celui-là. C'était capable. Pourtant, Dieu, d'une seule pensée, aurait pu faire ce qu'il voulait avec cet animal-là. Il a le contrôle sur l'esprit de tout ce qui existe, des hommes, de tout ce qui existe. Parce qu'il parle dans le livre de Proverbes qu'il contrôle la pensée des rois comme avec un courant d'eau. Si vous faites couler une... puis vous mettez votre main, comme ça vous allez diriger l'eau où vous voulez avec votre main. Bien, c'est ça qu'il est en train de dire. L'esprit des rois, pour Dieu, il joue avec comme si moi je joue avec un courant d'eau. Alors, s'il est capable de le faire avec les rois, il est capable de le faire avec les animaux, il est capable de le faire avec tout ce qui existe. Alors, Dieu veut lui montrer que malgré la grosseur, la force, la puissance de cet animal-là, que lui, il le domine à sa guise, comme sa créature, et que cette création-là, aussi grosse qu'elle soit, elle avait quand même besoin de dépendre de Dieu pour être nourrie. Dieu nourrit tous les animaux de la terre. Et je pense que Dieu enseigne aussi, par l'utilisation d'un gros animal, que non seulement il contrôle les gros animaux, mais il contrôle les petits aussi, qu'ils soient petits ou microscopiques. Maintenant, on va dans la section 20 à 28, je l'ai intitulé « Dieu humilie Job l'audacieux ». Alors là, ici, on parle du Léviathan. Alors il dit « Tu tireras le Léviathan avec un hameçon ». Autrement dit, un gros animal comme ça, est-ce que tu vas croire que tu vas le sortir comme si tu sortirais une truite? Il dit « Tu serras sa langue avec une corde, mettras-tu un jonc dans ses narines, perceras-tu sa joue avec un crochet ?» T'adressera-t-il beaucoup de prières et te dira-t-il des paroles douces? C'est en train de dire, un animal comme ça, là, qui est énorme, si vraiment il s'agit de dinosaures, il est en train de dire, il va-tu te demander, s'il vous plaît? Il va-tu te dire des paroles douces pour t'amadouer? C'est sous-entendu, c'est non. Hein? Mais les questions ont pour but d'humilier Job. Il dit, fera-t-il un accord avec toi? Le prendras-tu pour esclave à toujours? Il suffit d'essayer, prendre un animal de cette grosseur-là, puis d'essayer d'en faire un animal domestique, je m'en donnerai des nouvelles. Après ça, il dit, joueras-tu comme d'un oiseau, l'attacheras-tu pour amuser tes filles, les associés en feront-ils commerce, le partageront-ils entre des marchands, perceras-tu sa peau d'un dard et sa tête d'un harpon, mets ta main sur lui, et là, c'est là qu'il dit, mets ta main sur lui, et tu te souviendras de la bataille. Et tu n'y reviendras pas. Comprends. Voici tout espoir de le prendre est trompé. À son seul aspect, on est jeté à terre. C'est sûr que si je regarde un crocodile, ça a quelque chose de vrai aussi, parce que je me souviens d'avoir déjà vu des émissions à télévision où on voyait des gens du sud de la Louisiane. Ils se promenaient sur des fleuves de Louisiane, puis qui attaquaient des crocodiles dans une petite bague de tout rien du tout, me disant moi-même, ça prend-tu du monde qui ont du front autour de la tête pour faire une affaire pareille? Parce que si l'animal fait tourner ta barque, dis-toi une chose, dis adieu à ce monde. Parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir peur d'un crocodile, mais si c'est vrai que que cet animal-là serait plutôt un dinosaure, imaginez-vous, quand il dit... Voici tout espoir de le prendre et tromper. Tu ne peux pas faire de cet animal-là comme tu ferais avec un cheval. Là. Il dit, à son seul aspect, on est jeté à terre. Alors vraiment, c'est un animal qui inspirait la terreur. Alors, certains ont interprété le Léviathan comme étant la baleine ou le crocodile. Si vous allez dans des vieilles versions, dans des vieux commentateurs, ils vont vous dire ces choses-là. Ou bien s'agissait-il d'une bête de type dinosaure qui a vécu avec l'homme à l'époque du patriarche, telle que mentionnée pour le Béhémoth. D'autres, dans le mot Léviathan, quand vous prenez les Écritures puis vous regardez l'ensemble des endroits où le mot Léviathan est annoncé, on voit que ça peut vouloir dire plusieurs choses aussi. Ça peut être le symbole du diable, le symbole de Satan, le symbole d'une grande puissance comme l'Égypte ou d'un monstre marin. Là, on va aller voir les versets. Un monstre marin, Ésaïe 27, verset 1. « En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan. » Tu vois, on utilise encore le même animal. « Serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. » Alors ici, on en parle comme, tu vois, un animal, un monstre marin. Dans Apocalypse 12, versets 7 à 9, on parle du Léviathan comme étant Satan. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé Diable et Satan, qui avait séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Un animal marin, dans le psaume 104, versets 25 à 27, ça se dit, voici la grande et vaste mer, là se meuvent sans nombre des animaux, petits et grands. Là se promènent les navires et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Oui, vous, ça peut vouloir dire Satan, un monstre marin. Et la seule chose qu'on peut retenir, c'est que qu'on prenne quelque animal que ce soit un animal qui n'existe plus, que ce soit un animal qui a déjà existé, ou que ce soit les différents endroits où on parle de cet animal-là dans la Bible, c'est quelque chose de gros. Alors Dieu est en train de vouloir démontrer que ces choses-là, il les maîtrise. Ézéchiel 29, versets 2 et 3. « Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. » Si vous allez dans le livre qui s'appelle « Young's Literal Translation of the Bible », quelqu'un qui a pris les mots hébreux et l'a traduit de façon littérale, Ézéchiel 29, verset 3, quand il dit « grand crocodile », le mot qui est utilisé, c'est le mot « Léviathan ». Oui, il y a eu des interprétations, mais en tout cas, la seule chose qu'on doit retenir, c'est que Dieu est en train de dire à Job, un animal qui est énorme, lui, il en a le contrôle, il est en train de vouloir dire à Job, « Est-ce que toi, tu es capable de faire quelque chose avec ces bêtes-là? » qui a pour but de le ramener à l'humilité. Alors qu'on adopte une compréhension littérale pour un animal existant ou ayant existé, ou que ce soit le symbole d'une puissance politique, parce qu'on parle de l'Égypte, que le mot Léviathan avait été utilisé pour un équivalent de l'Égypte, ou de Satan, l'idée principale est que le Seigneur est capable de dominer toute force avec une grande facilité. Mais il est certain que la créature, l'homme, n'a pas ce pouvoir. Aussi, l'homme doit-il demeurer d'une grande humilité devant son Créateur. Quelles sont les applications? Autrement dit, c'est quoi les leçons qu'on peut retenir? On lit ça, le chapitre 40. Après qu'on a fini de lire, qu'est-ce qu'on devrait retenir? Qu'est-ce qu'on devrait appliquer? De quelle façon on devrait comprendre comment le texte s'applique encore à nous aujourd'hui? Rappelons-nous, première application, constamment que nous n'avons pas les capacités intellectuelles ni morales de questionner les voies providentielles de Dieu dans le gouvernement du monde et dans nos vies personnelles. Si nous avons péché, dans notre folle audace de faire ça, confessons-le humblement, demandons pardon et demandons la grâce de mettre notre main sur notre bouche lorsque nous sommes tentés de le faire. Deuxième application, appeler Dieu à la barre est un grave péché. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu dans votre vie chrétienne, quelqu'un faire ça. Moi, je l'ai déjà entendu. Ça me fait mal au cœur quand j'entends quelqu'un utiliser, parler de Dieu et de considérer que Dieu a des comptes à lui rendre. C'est un grave péché. Méditons constamment sur la grandeur infinie et insondable de Dieu. Puis, sur notre corruption et notre misère profonde. Plus on va comprendre les deux extrémités, Dieu est parfait dans tout ce qu'il est, dans chacun de ses attributs, et nous, on est imparfaits, faibles, misérables, pauvres et pécheurs. Alors, qui on est, nous, pour questionner cet être-là, que même l'éternité ne suffira pas à nous faire découvrir pleinement, parce qu'il est insondable, il est infini. Alors, le fossé, si on voit le haut et si on voit le bas, le fossé est tellement grand que ça va nous ramener à notre place et ça va nous rendre humbles. Troisième application, la méditation sur les œuvres de Dieu sont suffisantes pour nous humilier et nous rappeler notre petitesse, notre insignifiance et notre impuissance. Si la création de Dieu, l'observation de l'univers, l'observation des animaux, du règne végétal, de toutes ces choses-là, est suffisant pour nous ramener à notre place. Si on médite sur la personne de Dieu, pensez-vous qu'on se formeille encore plus à notre place? Si la création suffit pour nous mettre à notre place, combien plus nos observations et notre compréhension et notre méditation sur le Créateur lui-même va nous remettre vraiment, mais là, vraiment à notre place? Combien plus la méditation sur la personne même de Dieu le fera avec énormément plus d'efficacité pour nous rappeler notre statut de créature. Dieu ne rend de compte à personne. C'est ce qu'il dit dans les Écritures. C'est nous qui devrons lui rendre des comptes. Ça, si on retient ça au départ, comment on retiendra juste ça de la leçon d'aujourd'hui? On va en avoir retenu un bon bout. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni, loué, et exalté à tout jamais. Amen.